Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Mais barre-toi, putain. C'est le premier truc que je me suis dit en voyant que le mec ouvrait les yeux et qu'il n'était pas décidé à sortir du lit. Pas immédiatement. Barre-toi avant que je te le demande, sinon j'écrase ta petite fierté de moucheron. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Lisa Randin à l'occasion de la publication de son roman « Mauvais goût » aux éditions Hystérique et Associés. C'est parti. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie. Je suis ravie de te recevoir à l'occasion de la publication de ton premier roman.
Eh oui, eh oui.
Félicitations.
Merci.
Et pas des moindres, puisque c'est « Mauvais goût » et publié en plus chez Hystérique et Associés, dont on connaît le travail exigeant, audacieux. J'étais persuadée en fait, qu'on allait faire une belle rencontre en lisant ton livre et je n'ai pas été déçue. Donc merci beaucoup d'avoir écrit ce livre déjà.
Merci.
Tu nous présentes un livre noir. Il est tout noir. On a cette... mais tout ça, c'est important, en fait.
Oui, hein.
Tous les choix sont
oui.
importants. Donc, la jaquette est très sombre. On voit... c'est une photo de nuit avec juste un peu les lumières, on imagine, de la rue, de la ville. Et en fait, ça nous met carrément sur la voie de ton personnage principal qui vit beaucoup la nuit, qui... a une noirceur très, 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 très forte en elle et qui va, en fait, nous amener à des endroits de colère, mais assez jubilatoires à lire. Alors, à ressentir, pas sûr. En tout cas, à lire en tant que lectrice engagée qui a parfois besoin, en fait, aussi d'un côté expectorant dans la lecture. C'était très agréable d'avoir ces mots-là dans notre tête, en fait.
Le mot « expectorant » est absolument parfait, merci. Alors elle est, par rapport à la colère et au fait de la ressentir, effectivement, je pense que le personnage a quand même une forme de jouissance, hein, mais une jouissance malsaine, en fait, dans sa propre colère. Après, y a un parcours quand même qui est proposé dans le roman pour... peut-être pas sortir de la colère, mais en tout cas éviter qu'elle devienne complètement absorbante, enfin éviter de s'y consumer en fait.
Mais ce qui, moi j'ai trouvé, est très original, c'est qu'en fait dans les constructions de suspense, de narration, les romans habituellement en fait on est un petit peu sur une pente ou en tout cas une montée, voilà, c'est-à-dire qu'on part d'une situation et petit à petit en fait il y a des émotions plus fortes qui vont se mettre en action avec le principe souvent des situations un peu climax, des choses paf qui explosent tout. Là en fait ce qui moi m'a vraiment enthousiasmée, c'était que directement en fait on est un peu prise comme ça dans l'énergie très colérique, viscérale en fait de ce personnage et qu'on n'a pas le temps en fait de comprendre où elle est, ce qu'elle se passe, qui elle est, à quoi elle ressemble, c'est quoi son background, en fait on est juste dans sa colère et tu vas nous y laisser un petit temps. Et donc je me suis dit en fait d'arriver comme ça directement en fait dans cette émotion là, ça a dû quand même te demander peut-être... tu vas peut-être nous le dire, une construction dans ton écriture. Est-ce que, en fait, ce début est le vrai début ? C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant et tu as vraiment commencé comme ça cette écriture ?
Ouais. Oui, c'est absolument... c'est le vrai début. et surtout, c'est peut-être un des passages qui a le moins varié. Le début a beaucoup moins varié que la fin. Je suis partie d'un état dans lequel je me suis retrouvée moi-même pour écrire ce début. Je voulais partir avec un personnage qui en était à un point de non-retour, qui sentait qu'elle avait touché le fond, qui était encore en train de creuser. Je voulais qu'elle soit absolument tendue, en fait, que ça soit... elle soit une pichenette d'exploser complètement et je voulais qu'on ressente cette tension dès le début. Alors c'est vrai qu'après, donc il y a une amie à moi qui a relu le livre et qui m'a dit peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu quelque chose pour guider les lecteurs et les lectrices. Et du coup j'avais rédigé une sorte de petit avertissement Et finalement, ça c'est parti, en fait, pour justement rentrer dans quelque chose de tambourinant, en fait, de vraiment, oui, tendu.
C'est ça. Et ce qui est d'autant plus appréciable, c'est qu'en fait, dans les émotions fortes, en général, c'est très succinct. C'est-à-dire qu'on va avoir l'émotion et puis on passe à autre chose. Là, tu nous fais durer devant ce sentiment-là, ce qui fait que nous-mêmes, en fait, on peut aller chercher en soi des restes de colère ou des colères présentes. Parce que c'est vrai que dans nos engagements féministes, la colère, c'est un des gros piliers. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, beaucoup de personnes non-binaires, trans, c'est des endroits, en fait, où tout commence par la colère. C'est qu'on n'en peut plus, qu'on ne sait plus, en fait, quoi en faire, que toute notre vie, en fait, est dirigée par cette colère qui peut, évidemment, consumer, comme tu le disais, pour ton personnage. Mais moi, j'ai remarqué ces dernières années qu'il y a eu un peu de transformation, qu'on essaye de faire autre chose, ou en tout cas de choisir une sorte de porte de sortie pour cette colère en disant on va pas rester là en fait comme une allumette qui va brûler jusqu'au bout, il va falloir quand même qu'on continue à vivre et qu'on trouve des endroits de joie, de liberté, etc. Donc il y a eu cette colère-là féministe, s'est transformée. Et donc de retrouver cette colère viscérale dans ton personnage, c'est aussi se rappeler en fait des états qu'on a pu avoir en tant que militante ou personne juste dans cette société. Je pense qu'on a beaucoup de raisons d'être très très en colère, mais avec quelque chose d'une protection aussi, de se dire ce n'est pas la mienne, c'est celle du personnage, même si on peut y retrouver beaucoup beaucoup de choses qui feraient écho en fait à nos colères profondes. Tu le disais, ça te rappelle toi aussi. Enfin, c'est des états que tu as vécu qui t'ont permis en fait de développer ce personnage. Pour autant, comme tu l'étends sur la longueur, tu es allé, lire, voir, t'aider d'autres livres qui sont très en colère, ou vraiment tout sort de cette matière première.
Alors non, je pense que je suis pas. En fait, je suis plutôt allée vers des livres après. En fait, après l'avoir écrit, bien sûr, on sent des influences de, enfin, mais plutôt de textes théoriques hyper connus comme King Kong Theory. En fait, je pense que par rapport au roman, j'ai pas lu de roman pour m'inspirer et écrire ce personnage. Je suis partie plutôt d'un désir d'écrire une anti-héroïne qui soit pas qui soit effrayante mais aussi minable, quelque chose qu'on trouve plutôt chez des personnages masculins en fait, et que j'arrivais pas tant à trouver chez des personnages féminins. Je voulais vraiment créer un personnage d'anti-héroïne et quelque chose qui fasse un peu miroir à des personnages masculins, à la Bukowski ou d'autres personnages qu'on peut trouver chez Dostoïevski. Oui, je voulais qu'elle soit agressive, je voulais qu'elle soit minable, et je voulais pas que ça soit l'anti-héroïne qui fait rire à la Eugénie Grandet ou à la Bridget Jones dont on se moque parce qu'elles arrivent pas à séduire les hommes. Là, je voulais vraiment un personnage oui, qui soit violent, en fait.
Mais c'est ça. Et on est vraiment baladé, en fait, dans cette colère qu'elle va avoir, surtout le soir, quand elle va dans les bars, quand elle boit beaucoup, quand elle consomme beaucoup de stupéfiants, des choses qui font qu'en fait, sa réalité bouge, même si sa colère reste, mais vraiment d'une fidélité. On va l'avoir longtemps avec nous, dans les oreilles, dans les yeux. Et évidemment, là, on parle beaucoup de la colère, mais il est important de dire aussi, mais de quoi est-elle en colère, cette héroïne, cette anti-héroïne?
Ben, elle est en colère contre beaucoup, beaucoup de choses. Elle est en colère contre elle-même. Je pense que sa plus grande colère, c'est contre elle-même, en lien avec les manières qu'elle a trouvées pour se défouler, en fait, qui sont principalement de boire et de consommer des anxiolytiques. Elle est en colère par ce qu'elle fait quand elle est dans ces états-là, et qu'elle se trahit en fait en faisant des choses qu'elle ne désire pas faire, en disant des choses qu'elle ne désire pas dire. D'abord, il y a la colère contre elle-même, Il y a la colère contre sa famille et même, j'ai envie de dire, contre le modèle familial, contre, enfin, j'ai presque envie de dire l'institution de la famille. Je pense que c'est un livre profondément écrit contre la famille traditionnelle, avec à sa tête un patriarche, quel qu'il soit, enfin, sous quelque forme que ça puisse prendre, puisque... donc elle a un père effectivement classiquement violent, mais aussi on va dire violent en parole, violent dans la manipulation, enfin c'est une violence insidieuse aussi, en plus d'être une violence frontale, donc en colère contre ça et bien sûr en colère contre les hommes, en colère contre son propre désir pour les hommes, donc c'est effectivement pour ça que la colère est partout, puisqu'il y a plein d'objets où elle s'attache, en fait.
Oui, donc tu parles en effet de cette violence envers le père et contre les hommes. Enfin, il y a quelque chose comme ça de se rendre compte avec elle, en fait, de cette surprésence-là aussi. Parce que comment on s'en rend compte ? Parce qu'elle va marmonner, on sent, en fait, qu'elle ressasse beaucoup des choses dans... Parce qu'on est à des endroits de narration qui sont... Et ce qu'elle se dit dans sa tête, et ce qu'elle va pouvoir dire, et la façon dont elle nous raconte tout ce qu'elle vit dans sa journée. Donc, on est vraiment un petit peu à l'intérieur d'elle-même, en fait, de toutes ces discussions, conversations qu'elle peut avoir sur les choses qu'elle voit. Et en effet, dès qu'elle croise un homme, elle va, en fait... vraiment montrer le caractère dominant, l'espace qu'il prend, les choses qu'il ose faire alors que personne ne lui a demandé. Et en fait, avec elle, on va reprendre en fait, cette conscience-là, puisqu'elle elle ne lâche rien, en fait. Elle va rien laisser passer sur leur comportement problématique, notamment dans l'espace public, mais aussi avec elle.
Oui. Je pense que ce qui l'énerve, et ce qui l'énerve surtout dans ses interactions, on va dire, alcoolisées, c'est que les hommes, ils sont toujours dans la légèreté, et que elle, enfin, qu'en tant que femme, on ne peut pas se permettre cette légèreté-là, parce qu'on est en train de surveiller qu'il n'y ait pas une situation de violence qui soit en train de se mettre en place. Donc, au départ, c'est surtout ça qui l'agace, c'est que... aussi, des situations sont perçues comme des situations de séduction, alors qu'en fait, c'est des situations d'abus. Dans ces contextes-là, oui, c'est en ça qu'elle est en colère contre les hommes et qu'elle ne veut pas laisser passer les comportements qui font que dans l'espace public, elle n'est pas à l'aise, en fait.
Oui, et qu'elle se sent... Alors, je sais pas en fait si elle se sent jugée dans son comportement par les autres personnes, parce que son jugement est déjà tellement énorme qu'en fait est-ce qu'il y a encore vraiment de la place pour les autres, parce que quand elle parle mal au barman, quand elle est dans des situations de rejoindre des groupes où on comprend bien qu'elle est pas là en fait, et on sait pas très bien ce qui se passe avec ces personnes, mais en tout cas elle est pas en réel lien, mais elle, de ce fait ces gens là ça reste des inconnus. On sait pas... Enfin, l'adhérence est pas là. Je trouve vraiment, en fait, que t'arrives à écrire, en fait, cette distance que crée la consommation d'alcool ou autre, cette bulle, ce flou, qui fait que, oui, on sent des sortes de formes bouger autour d'elle, mais ça va pas être eux, en fait. L'important, c'est, en effet, je me souviens pas avoir ressenti qu'elle voyait du jugement dans leurs yeux.
Bon, elle voit rien en fait, parce qu'elle est complètement arrachée.
Oui.
Et effectivement, quand on est complètement arrachée, on ne sociabilise pas en fait. On a des interactions, mais on ne sociabilise pas vraiment pour de vrai. Et j'ai écrit ce roman dans un processus d'arrêt de l'alcool. Donc, j'ai commencé à l'écrire au moment où il fallait vraiment arrêter, où je n'arrêtais pas, et où, en fait, c'était pour occuper mes gueules de bois qu'il fallait bien écrire, peut-être, voilà. Et c'est vrai que, du coup, dans le processus d'écriture, une fois que l'arrêt de l'alcool est intervenu, on voit, en fait, d'un œil vraiment complètement différent, les interactions, justement, de bar, de... Bon, on va pas donner d'heure, puisqu'il n'y a pas d'heure pour être complètement arraché, mais on voit qu'il y a un moment où ça bascule et où les gens ne se parlent plus et où ils continuent à avoir l'impression qu'ils se parlent, en fait. Et comme ça faisait extrêmement longtemps que je buvais dans toutes mes interactions sociales, j'avais perdu, en fait... j'avais perdu l'idée... vision des conversations de sourds, en fait. Et il a fallu arrêter de boire pour me rendre compte qu'en fait, à partir d'un certain moment, on ne se parle plus. Et donc, je pense que c'est ça qui transparaît dans le livre.
Mmh. Mmh. Oui, c'est carrément ça, oui. Oui, ça complète bien cette idée-là, comme je disais, de brouillard et de distance. Et en fait, c'est vraiment ça. Elle est dans son monologue intérieur, avec de temps en temps, en fait, on a l'impression qu'elle voit bouger des choses. Mais ça va rester en distance. Ça va vraiment pas créer quelque chose. Mmh. Sauf quand elle va mettre en action des rencontres, quand elle va donner des rendez-vous. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mmh. Parce que, comme je te le demandais tout à l'heure, est-ce que tu veux bien nous lire déjà les premières pages pour que on voit de quoi on est en train de parler quand même, okay. Enfin, on entende.
Et donc, c'est tout à fait l'incipit du livre. Il y a une petite épigraphe, mais je vais pas la lire, je vais rentrer directement dans le texte. Mais barre-toi, putain! C'est le premier truc que je me suis dit en voyant que le mec ouvrait les yeux et qu'il n'était pas décidé à sortir du lit. Pas immédiatement. Barre-toi avant que je te le demande. Sinon j'écrase ta petite fierté de moucheron. Je ne pouvais pas le croire. Il s'étirait, comme satisfait d'être indésirable. Corps glorieux dans son éclatante matérialité qui occupe toute la putain de place. Les commissures de ses lèvres se relevaient. Je me suis tournée pour ne pas voir ça, un geste ostentatoire qui aurait dû suffire à lui faire comprendre qu'il fallait dégager de là. Pourquoi veulent-ils toujours rester? Est-ce que je dors chez eux, moi? Non, jamais. Je jouis, je me casse. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça laisse de l'espace. Comment respire-t-il? Dans la touffeur des chambres où l'on ne dort pas. Moi, je n'y arrive pas. Le lendemain, il s'attarde même souvent après l'aube, tandis que la lumière vient dégueuler sur le lit ses écœurantes révélations. Ça crie pourtant. C'est pas le désir, mon gars, c'est pas l'affection qui t'a mis dans mon pieu. C'est la solitude, l'ennui et la peur de crever. Personne ne s'intéresse à personne. C'est un truc qu'on se fait croire, pour se sentir moins misérable. Je le sens dans mon dos qui se rapproche et colle sa main contre mon ventre. La sensation de moiteur me révulse. Si cette main descend, je t'en mets une. Je te laisse encore une chance de comprendre. Et de t'en aller, sans plus écorcher ce qu'il te reste d'amour-propre. L'espace d'un instant, je croirais presque que la chair rentrée de mon ventre fuyant lui envoyait un signal assez clair pour qu'il l'interprète correctement. Mais non, oh non, ça ne loupe pas, il y va, il y croit l'enfoiré, ou plutôt il se dit que ça vaut toujours le coup de tenter. Des fois que la meuf oserait pas le repousser. J'attrape sa main entre mes ongles et je la lui balance. Je plante mes yeux dans les siens et je lui dis de se casser. Ça va, désolé. Y a moyen de boire un café avant de décoller? Non. Non? Impossible pour lui d'entendre que j'ai refusé. Il a l'air tellement stupide, putain. Son sourire interloqué m'apparaît presque comme une récompense. Je n'arrive pas à décider si ce pathétique spectacle me procure du plaisir ou du dégoût. Comme je ne dis rien de plus, il commence à chercher ses vêtements, se lève. L'idée de me retrouver seule chez moi avec mon angoisse et ma gueule de bois m'effraie, mais le mec est tellement insignifiant que ça vaut mieux. Je le vois fouiller pour trouver ses chaussettes, probablement enterrées sous une des piles de vêtements qui encombrent la pièce. Ma chambre, cet entrepôt. J'aime que mon lit soit entouré d'une haie de tissu qui fainit. Pas de fenêtre. Ma chambre, ce caveau. J'y agonise à mon aise, quelle que soit l'heure. 5 longues minutes et le gars fouine toujours. J'espère qu'il tombera sur un cadavre de mouche. Je mets un t-shirt et je fais les 100 pas. Allez, on se bouge! Il me demande mon numéro, ce con. Je suis pas vraiment dans les trucs de plus d'un soir, en fait. Ah ok, pourquoi ? C'est pas mon délire. Ça y est, il baisse les yeux sur ses lacets, son regard devient vide, il a compris. Une fois la porte claquée, j'avale deux anxios et je me recouche. Encore une putain de journée avortée avant même que quelque chose n'ait la possibilité d'en sortir. Tu pouvais pas rentrer seule chez toi. Tu te disais que tu ne pourrais jamais dormir avec tout ce que tu t'étais mis dans la gueule. Alors encore un petit coup derrière la nuque. Encore un petit. Encore. Mais ça non plus. Ça n'aide pas à dormir.
Merci. Bon. Voilà. Mais là, ce qu'on entend, c'est... une de ses fâcheuses habitudes, c'est que au summum de la boisson, du dégoût d'elle-même, en fait, il y a vraiment ça, elle va en fait choper un gars, sans doute celui qui passe, celui qui... On ne sait pas trop. Elle ne sait pas trop non plus. et d'une certaine manière, elle va s'imposer ça. Elle va s'imposer d'avoir une relation sexuelle avec cet homme. Elle va se réveiller. En fait, dans le chemin qu'on vient de raconter, c'est-à-dire ce dégoût des hommes, cette colère envers eux, pour autant, il y a quelque chose d'un schéma de malgré tout y retourner. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose de ce fait d'assez d'une certaine vulnérabilité, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se joue ? Pour elle, avec ce besoin-là, est-ce que ça peut très bien être de la domination retournée, c'est-à-dire elle se sert, elle va chercher sans doute quelque chose pour essayer de combler quelque chose, peut-être même.
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses entremêlées. Effectivement, il y a parfois quelque chose, mais c'est à la fois quelque chose qui existe et quelque chose qu'elle se raconte, à savoir que quand elle va avoir des rapports sexuels avec ces hommes, ils vont essayer de la lui faire à l'envers, ils vont essayer de prendre et de rien donner. Elle se raconte que en fait elle couche avec eux pour ne pas leur donner ce qu'ils veulent et donc essayer de que ça soit elle qui ait le dessus et elle qui prenne. Mais ça c'est un peu quelque chose qu'elle se raconte. En vrai, elle y gagne rien. Puis quand on couche avec quelqu'un en ayant 5 grammes dans le sang, on sait bien que c'est pas pour avoir du plaisir. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc il y a cette petite comédie elle-même qu'elle se joue, d'une espèce de vengeance par interaction sexuelle violente où elle reprendrait le dessus. Mais je pense que la vraie raison pour laquelle elle couche avec ces hommes, c'est que quand elle boit, elle oublie de se protéger d'une part, puisqu'elle n'a plus aucun instinct de survie. Et il y a le désir de... Enfin, un désir qui est beaucoup plus naïf, en fait. Hein. Je pense que c'est... Enfin, le personnage, il a quand même envie d'être aimé. C'est... Et donc, mais sauf qu'elle cherche l'amour là où il faut pas, en fait. Parce que c'est impossible d'avoir des interactions sobres avec les hommes. C'est déjà difficile d'avoir des interactions sobres avec les gens. Il y a plusieurs fois où elle analyse ce qui se passe quand elle boit. Et quand elle boit, elle va énormément vers les gens. Et elle voit ça comme une malédiction, en fait, parce que ça serait beaucoup plus simple de s'enfermer chez soi. Mais sauf qu'elle ne peut pas ignorer qu'il y a un désir de connexion avec l'autre, en fait. Mais bien évidemment, quand le processus consiste à ingurgiter le plus de bière possible, à cartonner avec 2-3 benzo et roule ma poule, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas de rencontre, en fait.
Non, c'est ça. Et donc, tu le lisais dans ton texte, il y a l'un des... très 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 grand personnage de ce livre, c'est la solitude en fait aussi, et tout ce que elle met en place et ce discours qui, puisque on est dans sa tête, a l'air mais complètement ininterrompu. Elle est dans un flot constant de reproches, de jugements, de remords, de peurs, de... et en fait on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en effet tout ça, c'est des techniques pour ne jamais se retrouver seule avec sa peine aussi, avec toute la souffrance qu'elle peut ressentir d'une certaine manière, qu'elle peut ressentir point. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, en fait, elle est à des endroits, que ce soit avec la société, avec sa famille, et on va en reparler avec son système amical. En fait, tout ce qu'elle essaye de mettre en place, au final, ça revient à c'est qui, les gens avec qui elle a des relations intimes. C'est des inconnus de merde dont elle aurait voulu se passer, en fait. Donc cet endroit-là de la solitude, il est très prenant, quand même.
Heureusement, je voulais pas finir sur la solitude. Au contraire, le livre propose un parcours vers l'amitié, en fait. Je pense que le personnage rencontre beaucoup de personnes qui vont devenir ses amies. Beaucoup de personnes, non, elle rencontre surtout une personne qui va devenir son amie, je pense que c'est ce qui donne un peu de lumière au livre, parce que moi j'étais persuadée d'avoir écrit un livre drôle, mais j'espère qu'il est un peu drôle quand même. Enfin, moi je me trouve très drôle en tout cas. Donc, je sais pas, j'ai eu envie de mettre un peu d'humour dedans pour soulager. Et j'ai surtout eu envie de mettre de l'amitié dedans pour soulager. Parce que, comme tu l'as dit, on commence vraiment par le summum de la violence du personnage. Et le parcours n'est pas vers l'escalade, au contraire. Mais je voulais qu'on aille vers un peu de lumière pour le personnage, même si... on ne peut pas faire des miracles puisqu'elle revient d'un peu loin.
Oui, là où... Donc là, toute cette première partie, on est un peu sur cet énorme plateau de colère. C'est-à-dire que tu vas pas monter plus haut que ce qu'elle a déjà, mais tu vas nous le faire vivre. Et à un moment donné, sans vous révéler quoi que ce soit, elle va prendre la main à un autre endroit. Elle va, alors c'est la quatrième de couverture qui le dit, donc je me permets d'utiliser le mot, elle va devenir prédatrice. Et ce renversement de situation qu'elle n'a absolument pas envisagé, pensé, c'est pas prémédité, il s'avère que c'est un endroit de la narration qui va vraiment, en effet, faire switcher le roman. Je trouve qu'à partir de là... il y a une transformation nécessaire. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus rester sur le plateau. Il est obligé de se passer d'autres choses. Et donc, on va commencer à rencontrer d'autres facettes de la personnalité du personnage, ce qu'on n'avait quasiment pas avant. Elle était fort resserrée, en fait, sur cette colère. Et donc, sans que ce soit des révélations, en effet, complètement dingues, comme si on était passé à côté... Non, mais c'est plein de petits détails extrêmement subtils. Elle va se rappeler... elle va rappeler dans sa vie une amie de longue, longue, longue date qui, va pas venir combler exactement ce qu'elle voulait. Elle va nous raconter un peu plus dans son travail. Elle va nous raconter une autre rencontre qui va faire que sa vie va en être très changée. Elle va... Et ses points d'amitié ou de chaleur, peut-être, qui vont avoir des sens très variés, mais en tout cas, on sent qu'elle va... se dire, il faut faire autrement, en fait, là, maintenant.
Oui, mais elle n'a pas le choix, en fait, puisqu'elle ne peut pas revenir de ce qu'elle a fait. Et puis, surtout, elle va être assez sonnée, en fait. Ça va être une gueule de bois qui va durer un peu plus longtemps que les autres, qui va durer sur des mois, des années. Là-dedans, elle va être obligée de se replier sur elle-même et donc ne plus chercher tant de diversion à l'extérieur. Elle va être obligée de se reposer, finalement. Le terme n'est pas tout à fait adéquat. Elle va être obligée de se reposer. Et puis aussi, il y a un moment où finalement, elle va apprendre un tout petit peu à prendre soin d'elle-même. À avoir un peu plus cet instinct de survie qui lui faisait pas mal défaut. Là, elle va être de plus en plus capable, en fait, d'avoir des relations profondes avec d'autres personnes et surtout avec cette amie qu'elle se fait dans la deuxième partie du livre et qui est une personne qui ne ressemble pas, justement, qui ne lui ressemble pas à elle, donc à la narratrice, et qui ne ressemble pas aux autres, aux personnes qu'elle avait l'habitude de côtoyer, en fait, puisque c'est une personne extrêmement douce, Ça pourrait être un autre versant d'elle-même aussi, on pourrait l'interpréter de cette manière. Et donc, elle va trouver en elle une forme de douceur. on l'a entendu s'exprimer. On devine bien que ça va pas... Elle va pas se transformer radicalement. Il va toujours y avoir de la violence, mais... en fait, comme je le disais, elle ne pouvait pas rester sur ce degré de violence, sinon on éclate, en fait. Enfin, il y a un moment, il faut bien dormir.
Oui, mais c'est vraiment transformer, en fait, l'énergie, essayer de la poser à un autre endroit. Et ce que j'ai trouvé très touchant, en fait, dans cette rencontre qui est très particulière avec cette voisine, cette amie, quelque chose, en fait, qui va demander, en fait, aussi une appréhension de la part de la narratrice. Parce que, en fait, d'abord, elle va pas très bien reconnaître ce qui se joue, en fait. Je trouve que l'image de chacune à sa fenêtre est très belle pour ça. Parce que, comme tu disais, bon, oui, c'est peut-être même une autre version d'elle-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose aussi de se dire d'une dualité de... Alors, en fait, on s'appréhende comment dans la vie, quand on n'est pas dans un bar, quand on n'est pas bourré, quand on n'est pas complètement à l'ouest, comment on fait? D'abord, on se regarde. Et ça, ces principes de regard récurrent, ils sont très, très beaux. Et ce que j'ai... beaucoup aimé, c'est qu'en fait, d'abord, on sent qu'elle a une façon d'être au monde assez régulière, c'est-à-dire qu'elle remet en place des choses qu'on a pu lire avec ses rapports aux autres personnes dans le roman, qu'elle va essayer, tant bien que mal, de remettre en place avec cette personne, mais que ça ne va pas du tout marcher comme ça. On sent qu'elle pose des billes comme ça jusqu'à arriver à une vraie sincérité de rapport avec elle. Et tout ce petit jeu-là, c'est vraiment un apprentissage social, mais magnifique. Enfin, on le lit avec elle, on est... Mais oh, vas-y, on l'encourage quand même.
Oui, oui, oui. Surtout que ce personnage féminin, donc cette amie qui arrive, c'est une personne extrêmement isolée et c'est une personne qui n'a pas non plus l'habitude, en fait, d'échanger. Alors la narratrice, elle, quand elle comprend pas bien la personne en face d'elle, elle a plutôt envie de lui casser la gueule ou de lui gueuler dessus. Elle est en face d'une personne qui est extrêmement fuyante, et donc il faut s'apprivoiser, effectivement. Et elle a l'habitude des gens qui sont ivres. Quand on est ivre, on raconte toute sa vie à un inconnu, même des choses qu'on ne devrait pas raconter. Là, elle a en face d'elle une personne qui se surprotège, en fait, qui a l'habitude de s'entourer d'une forteresse. Donc forcément, ça prend du temps, et c'est lent, et ça change complètement le rapport au monde de la narratrice, de devoir être patiente, et de pas... forcer l'autre à quoi que ce soit, puisque elle-même elle n'a pas envie d'être forcée à quoi que ce soit.
Oui, d'être dans un rapport de silence. Ça, on sent quand même le... C'est pas facile.
Ah non, mais ça l'angoisse.
Mais il y a le silence, et il y a les livres. Et il y a aussi un rapport à l'écriture. C'est-à-dire que dans ton livre, je trouve que il y a une bonne façon... en fait, aussi de comprendre les chemins de cette colère transformée. C'est-à-dire, comment on fait quand on a des choses à dire? Quand on les a d'abord criées, on a rongé notre frein, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais en vrai, il y a encore matière à. Et le fait que les livres aient une place dans ton livre, que l'écriture ait une place dans ton livre, il y a comme une sorte de mise en abîme aussi de toutes ces périodes qu'on a vécues, des chemins de réparation, d'aller intégrer ça. C'est aussi, j'ai l'impression, une façon de dire à toutes les lectrices qui pourraient encore avoir cette colère viscérale, d'apporter des petits éléments comme ça aussi de notre héroïne, en fait... Elle s'en sort aussi pour ça, grâce à ça, en fait, à ces petits temps-là.
Grâce à l'écriture, grâce à la lecture. Je ne sais pas si c'est extrêmement perceptible, mais à un moment, elle rencontre un homme avec qui elle va avoir une relation, et donc qui est différente des autres, qui est pas une relation de violence, hein. Et donc dans cette relation, on comprend que lui, c'est quelqu'un de d'assez cultivé, qui lui parle de livres, etc., de, et que elle, c'est pas quelque chose qui l'a vraiment touché dans sa vie. Et en fait, on comprend que finalement, c'est la voisine qui va en quelque sorte la mettre à la littérature. C'est assez sous-entendu, je sais, enfin, mais et on comprend que c'est toutes les deux, c'est en parlant de livres qu'elles vont se rapprocher, et c'est par les livres que leur amitié va se faire, en fait, parce que finalement, quand on est angoissé par les rapports sociaux sobres, peut-être qu'un livre c'est un bon support pour échanger. Je sais pas. Moi, ça me rassure.
J'allais dire, en tant que libraire, c'est même pas une conviction. C'est le but de ma vie, quoi. Je suis d'accord. Mais oui, mais complètement. C'est que tout ce qui va se jouer, en fait, dans les scènes avec cette voisine, c'est très subtil. Et c'est là où, vraiment, j'ai trouvé que ton écriture était impressionnante. C'est que, en fait, sur un même roman, tu vas avoir une traversée comme ça de subtilité dans les émotions racontées. C'est-à-dire que même si ce qu'on a entendu, c'est brut, c'est rentre dedans, et tu vas vraiment pas hésiter en plus à aller vers des termes que certaines féministes n'utiliseraient pas du tout, mais parce qu'en fait, quand c'est une énorme colère, parfois, en fait, les codes, les usages, on n'en a rien à faire, en fait. On a juste un truc qu'on dégueule un peu comme ça. Et qu'après tout soit cousu, comme ça, dans des temps qui s'allongent, dans des lumières qui arrivent, des fenêtres qui se présentent. Enfin, vraiment, j'étais très impressionnée par ton écriture.
C'est le deuxième que j'écris, alors peut-être que... Voilà. Mais le premier était un essai, je me suis dit, c'est bien d'essayer, puis après on fera pour de vrai.
Mais en tout cas, dans la construction comme ça de ton personnage, je trouve que c'est toujours intéressant quand on est face à une première partie, un élément, une deuxième partie, mais que c'est pas ce qui a qu'on lit, en fait, en général. C'est pas les constructions habituelles de romans. C'est des choses que tu as travaillées, que tu as été accompagnée, notamment peut-être avec l'équipe éditoriale de Hystérique et Associés, ou ça a été des relectures, des personnes qui connaissaient ton projet, qui ont pu aussi t'accompagner dans ce déroulé-là.
Alors, le parcours global n'a pas changé, dans le sens où on est bien parti de la violence avec ensuite l'acte que commet la narratrice qui chamboule toute son existence, et à la fin, la rencontre avec cette amie, et puis une fin en feu d'artifice, parce que bon, il faut quand même pas niaiser. La douceur, c'est gentil, mais bon, on peut pas non plus changer complètement de personnalité. Donc ce parcours, il n'a pas bougé. En revanche, la relation avec son amie, donc Virginie, elle s'est énormément étoffée à la relecture, et j'ai été beaucoup accompagnée pour l'unification justement du style, et pour la justesse, pour garder la justesse tout au long de mon livre. Et il y a des choses qui ont énormément changé surtout dans la deuxième partie, avec vraiment un développement de ce personnage de l'ami. Là, oui, on a beaucoup retravaillé, on a fait beaucoup de relectures, et il y a eu surtout beaucoup, beaucoup de relectures pour le style, parce que c'est vrai que, comme vous avez pu l'entendre, il y a quand même pas mal de vulgarité dans le livre, donc c'est effectivement un choix, hein. Je pense que j'aurais du mal à me départir de ça. C'est quelque chose que j'aime énormément, la tension entre littérarité et vulgarité. Donc ça, c'était, on va dire, l'ADN du livre. Mais c'est quand même difficile de... Enfin, j'espère en tout cas avoir réussi ne pas en faire trop, ne pas en faire pas assez, ne pas aller aussi trop vers une forme de... pas préciosité, mais... En tout cas, la tension entre la vulgarité d'une part et des termes beaucoup plus soutenus d'autre part et des structures beaucoup plus littéraires d'autre part, ça a été vraiment retravaillé et retravaillé.
Mais on sent à ta lecture qu'il y a une très grande oralité. Il y a des prises de parole, donc il y a des endroits de dialogue. C'est pas toujours le cas, en fait. Hein. Les romans n'ont pas toujours une oralité. C'était quelque chose aussi que tu travaillais à voix haute.
J'essayais de m'entendre parler dans ma tête.
C'est intéressant, ça.
Oui, je l'ai pas beaucoup. Non, je pense pas que je les disais, non. Même si j'adore Flaubert et l'idée du gueuloir, c'était un peu... Je me voyais pas faire ça, mais en revanche, j'essayais vraiment de m'entendre dans ma tête pour être sûre que j'aurais dit les choses comme ça. Et du coup, quand j'abordais un dialogue, je me disais, ok, bon, toi, si tu devais dire la chose la plus simplement, tu le dirais comment ? Et donc, j'essayais vraiment d'avoir un effet naturel pour les dialogues. J'espère que ça a fonctionné.
Oh bah ça, oui, ça marche plutôt pas mal. Je pense que c'est d'ailleurs, comme je le disais, ce côté expectorant. En cas de grosse colère, lisez à haute voix. Mauvais goût, je pense que c'est tout à fait efficace. Comme le thym quand on a mal à la gorge. Nickel.
Ah super, je pourrais le prescrire comme médicament. Trop
mais
bien.
Évidemment.
En remplacement des benzodiazépines.
Voilà, je pense que c'était le dernier conseil parfait.
Moins d'effets secondaires, on ne perd pas la mémoire, c'est génial. Très bien.
Merci beaucoup Lisa pour ce roman. Je suis conquise, c'est parfait.
Merci pour l'accueil.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Lisa Randin à l'occasion de la publication de son roman « Mauvais goût » chez Historique et Associés. L'Affranchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Avec l'Affranchi Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.